Voilà un texte émouvant que nous venons d'entendre. Un texte émouvant parce qu'il nous parle des premiers disciples, des premières personnes qui ont croisé le chemin du Christ et qui se sont mis à leur suite. Un texte émouvant parce que près de 2000 ans après, eh bien, nous sommes dans ce temple. Nous sommes dans cette longue suite de disciples qui suivent le Christ. Un texte émouvant parce que il nous rend compte de ces premières personnes qui ne sont pas des entités théoriques, mais des vrais êtres humains. On a leur nom et on sait que ces hommes, ces femmes qui, par leur nom, sont des vraies personnes, avec des vraies vies, avec des vraies histoires, ont vu leur vie bouleversée. Texte émouvant et qui, j'espère, peut nous émouvoir encore. Bon, une première chose qui m'émeut dans ce texte, c'est que si ces personnes sont touchées par le Christ, ce n'est pas par une espèce d'acte magique, c'est parce que pour chacune d'entre elles, il y a quelqu'un d'autre qui lui a parlé du Christ. Dans ce récit que nous venons d'entendre, il y a comme une chaîne d'invitation, une bonne nouvelle qui se répand de personne à personne, de proche en proche. Et puis le cercle s'élargit au fur et à mesure que cette bonne nouvelle se répand, mais elle se répand en passant comme cela, de l'un à l'autre. Dans un premier temps, vous l'avez entendu, c'est Jean-Baptiste qui est au bord du Jourdain. Il a avec lui des disciples. Et puis quand Jésus passe, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu » en leur montrant Jésus. Et alors deux de ses disciples sont touchés par cela et ils se mettent à suivre Jésus. Un de ses deux disciples, qui s'appelle André, a un frère qui s'appelle Simon. Deuxième étape, vous l'avez entendu. Dès qu'il croise son frère, il lui dit qu'il a trouvé cet homme, qu'il a trouvé le Messie. Alors, Simon se met à suivre également. Les voilà trois. Et avec Jésus le lendemain, ils partent pour la Galilée. Ils remontent vers le nord d'Israël, vers la région, leur région, dans leur région et la région d'origine de Jésus. Et là, dans le village d'André et Pierre, ils rencontrent une autre personne, Philippe. Et Philippe se met à les suivre, à son tour. Et puis voilà que Philippe se précipite chez un ami à lui ou un voisin, enfin on ne sait pas trop qui c'est, Nathanaël, on sait simplement que c'est quelqu'un qui doute, qui se méfie. Ce n'est pas quelqu'un à qui on dit « Tiens, viens » et qui va tout de suite venir. Il dit « Oula, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et pourtant, il va suivre Jésus quand même. Et voilà, le cercle ainsi s'élargit d'un frère à un frère, et puis à quelqu'un du même village, et puis à quelqu'un qui a de la peine à croire. Et voilà qu'ainsi se constitue ce premier cercle des disciples. C'est une chaîne d'invitation. Chaque fois que quelqu'un est touché par la rencontre avec le Christ, il le dit à quelqu'un d'autre qui, à son tour, peut en être touché. C'est par l'ordre intermédiaire de chacun que d'autres peuvent entendre l'Évangile. Ça se transmet de personne à personne. Et si nous, ce soir, nous sommes dans ce temple, c'est très certainement parce que d'autres personnes nous ont un jour parlé de leur foi. Peut-être que parmi nous, certains peuvent avoir le nom ou l'image de quelqu'un en disant « Oui, pour moi, c'est cette personne qui un jour a une parole. » Pour d'autres, peut-être qu'on n'a plus la mémoire de quelqu'un qui a eu une parole. Mais tous, nous avons été au bénéfice de ceux qui, avant nous, ou autour de nous, ou à côté de nous, nous ont un jour parlé du Christ, qui eux-mêmes étaient au bénéfice, etc., jusqu'au Christ lui-même. Et je voudrais juste partager avec vous petit élément émouvant. Hier soir, on avait le début de nos rencontres de catéchisme. Donc pour la tranche 13-15 ans. C'est un samedi soir par mois. On avait une trentaine de catéchumènes. Et parmi eux, il y en avait un nouveau qui est venu parce que sa cousine a fait sa confirmation il y a 2 ans et lui a dit cet été, tu devrais y aller, c'est super. Alors, il a pris contact et il est venu. Et il était là au culte ce matin, donc je pense que ça lui a plu hier soir. En tout cas, voilà. Cette cousine qui a 16 ans et qui dit à son cousin qui a le même âge, eh ben, vas-y. Voilà, de proche en proche, la nouvelle se répand. c'est par des liens humains, par des relations que cela se fait. Et ça s'agrandit. Et au fil de l'histoire, ça s'est agrandi. Et nous sommes peut-être 2 milliards dans le monde. Enfin, je ne sais pas combien il y a de chrétiens. Enfin, et puis comment peut-on définir qui est chrétien? Et ça déborde ce que les églises peuvent identifier comme personne. Nous sommes de plus en plus nombreux, on pourrait dire, à être touchés par l'Évangile. Et c'est tellement émouvant. Mais alors on pourrait se demander pourquoi? Est-ce que c'est simplement sur le fait d'une parole qui nous convainc? Est-ce que c'est lié au charisme de celui qui parle? Et puis hop, on se dit, tiens, sa parole me touche et je le suis. Il y a sans doute quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a, dans le texte que nous venons d'entendre, peut-être une clé qui nous est donnée. Quand Jésus dit à Nathanaël qu'il verra le ciel ouvert et des anges qui descendront sur le Fils de l'homme. Alors ça peut paraître une phrase complètement impossible à comprendre. Voir le ciel s'ouvrir et des anges qui descendent sur le Fils de l'homme, c'est très codé en langage biblique. Pour quelqu'un de la Bible, ça fait tout de suite référence à Jacob, le patriarche, qui voyait une échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient. C'est-à-dire ce lien ouvert avec le ciel, c'est-à-dire dans la culture biblique, Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu réside dans le ciel, mais dans la culture biblique, quand on dit le ciel, ça veut dire Dieu. Ou quand on veut parler de Dieu, des fois, on dit le ciel pour ne pas prononcer le mot de Dieu. Quand Jésus dit « tu verras le ciel s'ouvrir », c'est-à-dire tu verras Dieu, tu verras le cœur de Dieu qui s'ouvre, tu verras la présence de Dieu, et tu verras des anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire non pas des personnages blancs avec des ailes, mais tu verras les signes et les personnes qui te parlent de cette présence du Christ. Tu verras le Fils de l'homme, c'est-à-dire ce Christ qui est confessé comme étant à la fois un être humain pleinement, et à la fois le Messie, celui qui est attendu dans le langage biblique du Premier Testament, c'est aussi le Fils de l'homme, une image du Messie qui doit venir. Quand Jésus dit cette phrase, il nous dit que, en fait, ce qui touche, ce qui peut nous toucher, ce qui peut nous émouvoir, c'est-à-dire à la fois nous parler au fond de nous et nous mettre en mouvement, eh bien, c'est cette révélation, cette parole, cette présence qui nous dit Dieu. Et qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu loin et inaccessible, mais un Dieu tout proche. Et qui nous dit que ce Dieu vient à notre rencontre, et que ce Dieu nous révèle à nous-mêmes, et que nous y trouvons notre propre humanité, notre propre vérité, notre propre liberté. Voilà pourquoi c'est touchant d'entendre la parole de Jésus. Voilà pourquoi il est important que nous ayons pu, chacun de nous, l'entendre un jour, et la réentendre, dimanche après dimanche, jour après jour, et la partager, pour que d'autres puissent à leur tour être émus. Mais alors là surgit une autre question, c'est comment faire pour que d'autres puissent être touchés? Que dire? Quels seraient les mots à formuler pour que d'autres que nous puissent être touchés par l'Évangile? Alors je reviens au texte, et c'est très intéressant, parce que les disciples que Jésus... Enfin, qui rencontrent Jésus, et ce groupe qui se forme peu à peu, de personnes qui suivent Jésus, ce ne sont pas des gens qui sont plus doués que nous. Ce sont des hommes tout à fait comme nous. Et c'est très intéressant de se dire qu'est-ce qu'ils disent, en fait. Je vous le rappelle juste, vous l'avez entendu tout à l'heure, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu ». André va dire à son frère « Nous avons trouvé le Messie ». Philippe va dire « Nous avons trouvé celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes. » Nathanaël va dire, « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Je ne sais pas si ça vous frappe en entendant ça, mais aucun d'eux ne redit ce qui lui a été dit. C'est chaque fois une phrase nouvelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une répétition d'un slogan ou d'une doctrine ou d'une phrase ou d'une formule magique. C'est une phrase personnelle que chacun dit. Chacun a reçu un témoignage de Jésus-Christ, et puis il se met à suivre Jésus, mais il en témoigne d'une autre manière, à sa manière. On ne parle jamais de Jésus en soi, mais on est appelé à parler de Jésus en moi, c'est-à-dire dans ce qui peut m'émouvoir, me mouvoir, me mettre en route. Parler de Jésus, c'est parler de la foi, de la confiance, de la relation que l'on peut en avoir. C'est donc pas une théorie, mais c'est plutôt un partage d'expérience. Et d'ailleurs, pour revenir toujours au texte, il y a vraiment cette dimension d'expérience et de relation. Quand André et l'autre disciple de Jean-Baptiste, dont on n'a pas le nom, sont mis sur la voie de Jésus, Jésus leur dit « Venez et vous verrez ». C'est-à-dire « Suivez-moi, voyez, et puis vous verrez bien si vous continuez à me suivre ou pas ». Ensuite, quand Simon est touché par le témoignage de son frère André, eh bien, son frère l'amène à Jésus. C'est-à-dire, il ne dit pas juste une phrase. Il le prend peut-être par la main, par le bras, on ne sait pas, mais en tout cas, il l'emmène avec lui. Puis quand Philippe va croiser Jésus, c'est Jésus encore une fois qui lui dit « Suis-moi », appelle au mouvement. Et puis, quand Nathanaël entend aussi cette phrase de Philippe « Nous l'avons trouvé », c'est suivi par cette invitation « Viens et vois ». C'est-à-dire que chaque fois, il y a une phrase de relation. Chaque fois, il y a une invitation. Chaque fois, il y a un appel à suivre le mouvement, à venir et à voir. Ce n'est pas une explication qui est donnée. C'est une expérience de vie qui est partagée. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Ce n'est pas un endoctrinement, c'est une occasion offerte pour librement voir et peut-être rester. Alors voilà qui nous interpelle. À la fois parce que finalement on peut se dire que ce n'est pas très difficile de parler de Jésus à d'autres. Alors je sais bien, on a plein de pudeur, de réserve. Si ça nous émeut, c'est difficile de parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis on peut toujours avoir l'impression qu'on va imposer à quelqu'un, ou alors que ça ne va pas plaire, ou qu'on va se prendre en retour quelque chose qui va nous déplaire. Mais en fait, ce que nous dit ce texte, c'est que tout simplement, il suffit de dire, enfin il suffit, en tout cas nous sommes appelés, simplement, à dire voilà ce qui me touche, et viens et vois. Et alors là surgit encore une question, mais c'est la dernière pour ce soir. Si des personnes viennent et voient, qu'est-ce qu'elles voient en fait? Et ça c'est une sacrée question. Parce que derrière cette expression « viens et vois », ça dit que le témoignage n'est pas dans la formule qui est dite, elle n'est pas dans l'invitation, c'est aussi dans l'expérience partagée. C'est-à-dire une dimension communautaire du témoignage chrétien. Ça se vit ensemble. Ce n'est pas chacun dans son coin qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre, ça fait un groupe de disciples, et puis une communauté, et puis l'Église, et puis nous ce soir dans ce temple. Et la manière dont nous vivons ensemble, les relations qu'il peut y avoir, la joie que l'on peut partager, les douleurs que l'on peut aussi se porter les uns et les autres, tout ce qui fait notre vie, eh bien, si vraiment c'est quelque chose que nous pouvons vivre ensemble, alors peut-être que d'autres qui viennent et qui voient verront qu'il y a là quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, comme une puissance qui nous change, qui nous transforme. Parce que c'est bien là, et je termine par là, ce qui est l'essentiel dans ce texte. C'est une chaîne de témoins, un cercle qui s'élargit de proche en proche pour former un groupe, un appel à dire qui est Jésus pour chacun et appelé à venir et à voir. Mais tout ça, c'est parce que nous trouvons dans l'Écriture la présence de Dieu, la révélation de Dieu, la révélation de ce que nous sommes nous-mêmes. Et cela, et c'est la pointe du texte, je pense, en tout cas la pointe, peut-être pas du texte, mais sur ce quoi j'aimerais finir, c'est que ça transforme. Et que peut-être le témoignage le plus grand, c'est tout simplement de dire, voilà en quoi ça m'a changé. Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans notre texte, Simon va changer de nom. Il va devenir Pierre. C'est pas rien de changer de nom. Et dans la Bible, le nom, c'est l'identité de la personne. Donc Simon change d'identité, il devient une personne nouvelle. Il est toujours le même, mais il est renouvelé par cette présence, cette rencontre, cette suivance du Christ. Nathanaël, celui qui doute, Jésus lui dit, tu vas voir de choses plus grandes encore. C'est-à-dire, il l'appelle à continuer à vivre, à espérer, à dépasser sa méfiance ou sa défiance, à entrer dans la confiance et dans l'espérance. Et à nous tous, il dit cette phrase dont j'ai déjà parlé, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous serez mis en contact avec Dieu, avec vous-même et les uns avec les autres. Oui, c'est un texte que je trouve émouvant parce qu'en fait, il nous dit plein de choses sur la rencontre avec le Christ, sur le partage de la bonne nouvelle, sur la vie de communauté ensemble, sur le témoignage que nous pouvons avoir, sur cette invitation qui est encore pour nous ce soir. Viens et vois. Oui, c'est un texte émouvant parce qu'il nous met en mouvement. Amen.